Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, module 9. À quoi ça sert le baptême ? Il va être question de savoir que la vie normale s'arrête quand elle s'arrête, mais quand on devient chrétien, on reçoit par le baptême une nouvelle vie, une vie royale, et qui ne s'arrêterait pas non plus, même si demain c'était la fin du monde. À l'époque, le poème « Le roi des aulnes » de Goethe a bousculé beaucoup de monde. Un père, dans ses bras son enfant malade, chevauche à travers la nuit et le vent. L'enfant est de plus en plus agité, il se sent en danger. Il craint un démon mortifère, le roi des aulnes. Le père essaye de calmer l'enfant qui crie dans son désespoir. Il le serre plus fort dans ses bras et presse son cheval d'avancer. La balade se termine par ces mots. Il arrive à sa maison avec peine et angoisse. L'enfant dans ses bras était mort. Qu'est-ce qui pousse de jeunes parents à prendre leur bébé et à le faire baptiser? C'est une sorte d'intuition existentielle, très proche du récit de Roi des Aulnes. Un être innocent leur a été confié. Le souhait le plus profond de leur amour, c'est de préserver ce petit être de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Ils se tournent donc vers Dieu, le maître de la vie, et lui demandent sa bénédiction. Voilà ce que représente le baptême pour beaucoup de gens. Mais n'est-ce pas seulement un vœu pieux? Qu'en est-il de toutes ces mères dont les enfants deviennent de la chair à canon et ne reviennent plus? Ne sommes-nous pas tous voués à la mort? L'enfant dont ses bras étaient morts, n'est-ce pas quelque chose que nous vivons trop souvent? La vie a des aspects merveilleux, mais nous ne pouvons rien vraiment retenir. Tout est menacé. Et comme le péché existe, nous n'arrêtons pas de nous détruire réciproquement. Alors est-ce que tout cet amour, toutes ces tentatives de préserver les autres, avec ou sans l'aide de Dieu, ne sont pas vaines? Le baptême doit être plus qu'un vœu pieux. Il doit être plus qu'un rite entouré de sentimentalisme, la fête des oncles et des tantes autour d'un petit bébé bien apprêté qui ne sait pas ce qui lui arrive. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Voyons ce qui s'est passé au Mali. Il y a un certain temps, un prêtre a préparé 40 adultes à recevoir le baptême. Quelques semaines avant la fin de la période préparatoire qui dure 3 ans, ils se sont installés à proximité de l'église. Cela s'est su. Une nuit, l'aumônier a reçu des appels de menaces venant de militants islamistes. S'il baptisait ces personnes, ça allait mal se passer. Le prêtre a donné aux catéchumènes la liberté de décider de partir. Ils ont tenu conseil entre eux. Aucun n'est parti. L'un s'est fait le porte-parole des autres. « Nous souhaitons être baptisés avec de l'eau ou du sang. » Ils ont été baptisés avec de l'eau. 40 adultes ont risqué littéralement leur vie pour être baptisés. Et si un commando armé de mitraillettes, de détonateurs et de bidons d'essence avait attaqué l'église? Alors ils auraient reçu le baptême de sang et seraient ainsi devenus chrétiens. Au Mali, pour être baptisé, cela vaut la peine de tout risquer, même sa propre vie. Et ils avaient raison. Le baptême donne la vie pour toujours. C'est l'enseignement chrétien. L'église le garantit. En cela, elle suit Jésus qui, en Matthieu 28, verset 19, a exigé le baptême, et en Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » en a fait la porte d'entrée vers la vraie vie. C'est la grande porte d'entrée. Bien sûr, Dieu a prévu d'autres chemins pour les personnes qui ne trouveraient pas le baptême. Depuis, l'Église imite Pierre dans les Actes des Apôtres. Elle encourage tout le monde à s'approcher de la foi en leur disant sans cesse « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Pour certains, cela peut paraître étrange. Pourquoi est-ce si important que je me lie au Christ et que par le baptême je le revêtisse comme on met un vêtement? La réponse est simple. Parce que Jésus est la seule passerelle entre la mort et la vie. Pour utiliser une comparaison jusqu'au boutiste, le baptême est un peu comme le dernier avion qui sort de la souricière de Stalingrad. Nous, les êtres humains, nous sommes un peu comme dans la souricière de la mort. Nous n'allons pas arriver à nous sortir de cette fatalité mortelle dans laquelle nous sommes mis par notre propre faute, en grande partie, par notre péché, notre méchanceté. Mais voilà que quelqu'un nous rejoint de son plein gré. En Jésus-Christ, Dieu est descendu dans cet espace de mort afin de partager avec nous la souffrance sous toutes ses formes, afin de prendre sur lui nos péchés et afin de nous ouvrir une issue pour sortir du pays de la mort. Cette issue s'appelle la résurrection. Jésus est le premier qui est mort et qui vit quand même. Le baptême est une sorte de produit dérivé de la résurrection de Jésus. Il nous prend par la main pour sortir du pays de la mort vers une vie qui n'a pas de fin. On peut aussi faire une comparaison un peu audacieuse. Le baptême est comme la dernière chance pour sortir de la souricière de Stalingrad. Qui dit ça? C'est dans la lettre aux Romains. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien. Module 10. À quoi ça sert la confirmation? Il va être question de l'aventure de la foi. C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage et la force pour foncer la tête la première. On raconte une blague grinçante sur la confirmation. Deux curés parlent d'une invasion de chauves-souris dans leurs églises. « J'ai vraiment tout essayé, dit l'un d'eux. Je n'arrive pas à m'en défaire. » Et son confrère de lui dire « C'est pourtant très simple. Je les ai confirmées. Le lendemain, elles avaient toutes disparu. » Cette boutade contient une grande part de vérité. Avec le baptême et l'Eucharistie, la première communion, la confirmation fait partie des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Certains les appellent même les sacrements d'insertion dans la communauté catholique, ou encore les sacrements de la maturité. Du coup, c'est un peu frustrant quand on pousse des jeunes vers ce sacrement, mais que très clairement, ils ne le souhaitent pas, ou qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Sinon, ils ne s'évanouiraient pas dans la nature par la suite. Certains parlent d'un mensonge institutionnalisé et exigent que l'on arrête tout de suite cette mascarade. D'autres sont plus prudents et soulignent l'action invisible du Saint-Esprit chez ces jeunes. Si nous pensons ne pas pouvoir échapper à la mécanique bien huilée d'un rituel, somme toute vide de sens, cela indique que nous sommes à des années-lumière du vrai sens et de la signification première de la confirmation. Revenons tout simplement au Nouveau Testament et voyons la pratique de l'Église primitive. En Samarie, la Cisjordanie actuelle, les gens avaient rencontré le Christ. Quand les apôtres restés à Jérusalem l'apprirent, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Saint Paul confirme aussi, notamment dans la métropole commerciale luxueuse d'Éphèse. Il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Un prêtre a trouvé une bonne image pour l'expliquer. Avec le baptême, la voiture est garée. Mais avec la confirmation, elle a du carburant. Le carburant, c'est de l'essence, c'est-à-dire l'Esprit. Dès le Nouveau Testament, nous apprenons qu'il existe deux réalités spirituelles et qu'elles sont liées entre elles, qu'elles ne font qu'une chose, mais qu'elles sont tout de même transmises séparément. Ou, dit autrement, le baptême est plus que le sacrement de Jésus. Il nous soude si étroitement avec le Seigneur ressuscité que nous formons ensemble avec les autres chrétiens et lui-même un corps. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. La confirmation est plus que le sacrement du Saint-Esprit. Par la confirmation, nous recevons le Saint-Esprit. C'est un don. C'est l'Esprit de Jésus. Par la confirmation, nous devenons des êtres spirituels. Dieu lui-même fait sa demeure dans les tréfonds de notre âme. À partir de là, nous ne vivons plus que d'une seule source, qui est plus profonde que nos pensées les plus profondes. Nous sentons un élan en nous qui dope notre volonté. Dieu vit en nous, Dieu aime, Dieu respire. Nous n'appartenons donc plus extérieurement à Jésus parce que nous le trouvons sympa, parce que nous faisons partie de ses supporters ou parce que son enseignement nous semble intéressant. Non, en tant qu'êtres spirituels, des êtres humains qui vivent de l'Esprit, nous sommes entrés dans une véritable relation avec lui, nous lui appartenons. Lors d'une homélie à l'occasion d'une confirmation, l'évêque Stéphane Auster a dit « Lui appartenir ne signifie pas que nous nous mettions une laisse autour du cou et qu'il nous tire derrière lui. Lui appartenir, cela signifie que nous sommes ses amis. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous lui appartenons parce que nous nous sommes justement décidés à le faire en toute liberté. » Et en se dirigeant vers les confirmants, « Devenez des spécialistes relationnels, est-ce relation avec Dieu. Aidez les autres à trouver cette relation. » Il est important que nous devenions des spécialistes relationnels en améliorant constamment cette relation avec Dieu. Cette relation grandit au même rythme que nous grandissons dans cette relation, de la même manière qu'elle nous porte. Et nous devons aider à intégrer d'autres personnes dans cette relation. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du Grand Catéchisme International pour la Jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, Module 11. comment Dieu nous réconcilie avec lui et avec les autres. Il va être question de pourquoi même le pape va se confesser et pourquoi on ne peut pas être chrétien si on ne fait que s'arranger avec soi-même. On dirait que nous vivons à l'époque de la déculpabilisation universelle. Quel que soit le sujet, c'est toujours la faute des parents, des circonstances, de la politique ou du voisin. Nous nous préoccupons beaucoup de péchés et de fautes, mais seulement quand cela concerne les autres. Les psychologues disent à juste titre qu'on ne peut pas construire une forte personnalité si on n'arrête pas de s'autocritiquer, si l'on n'est pas capable de s'accepter tel qu'on est et de se sentir bien dans sa peau. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est important de donner de la reconnaissance aux enfants dès le plus jeune âge. Mais faut-il pour autant exclure le sujet du péché? Dans le Nouveau Testament, il est tout de même dit que le Christ est mort pour nos péchés. Dans certains pays, il y a encore des crucifix dans les salles de classe et les tribunaux. Les vestiges d'une sombre époque. La radiation du péché a commencé au XIXe siècle. Friedrich Nietzsche, philosophe du radicalisme, avait une dent contre le péché. Il le considérait comme un sentiment juif, une invention juive maladive, typique pour une religion d'esclaves. On aurait instrumentalisé le concept de péché afin de provoquer contrition, déshonneur, humiliation et par là même humilier les êtres humains. Dieu t'offre sa miséricorde seulement si tu regrettes. Une telle phrase ne serait jamais venue à l'esprit d'un grec. Nietzsche conseillait de ne pas se préoccuper des conséquences naturelles du péché. Il rêvait de la beauté vitale et de la force des bêtes de proie blondes, sans scrupules. Il faut que la bête se montre de nouveau, qu'elle retourne à sa terre inculte. Aristocratie romaine, arabe, germanique ou japonaise, héros homériques, vikings scandinaves, tous se valent pour ce qui est de ce besoin. Et on sait ce que les nazis en ont fait. Le national-socialisme ne connaissait pas le péché, hormis celui contre le sang et la race. Des idéologues populistes avaient fait en sorte que les gens aient perdu tout scrupule et soient devenus aveugles face aux facteurs de la déshumanisation. Peu de temps après, des surhommes blonds regardaient en ricanant comment des sous-hommes étaient déportés dans des wagons à bétail en direction des chambres à gaz. Une chose est claire, vider de son sens le péché, le prendre à la légère, en rire, l'exclure de l'existence humaine est un mensonge, et trop souvent un mensonge qui dure toute la vie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Les conséquences en sont dramatiques. Le mensonge a été, et d'ailleurs, le péché originel, comme on peut le lire dans le livre de la Genèse. L'Évangile, selon saint Jean, parle du père du mensonge et le considère comme étant le meurtrier depuis le commencement. Il est bien question du diable. Il n'y a aucune raison de le banaliser et de lui donner le rôle d'un diablotin. Jusque-là, beaucoup de gens sont d'accord. Mais il ne voit pas le lien entre le péché et Dieu. Procédons par analogie. Remplaçons le mot « Dieu » par le mot « absolu » et rajoutons-y quelques banalités, la beauté absolue, la vérité absolue, la bonté absolue. Il n'est pas possible de définir Dieu, même s'il dépasse de loin tout ce que nous connaissons de bon, de vrai et de beau. C'est quelque part absolument impossible d'imaginer à côté de Dieu quelque chose qui ne serait pas bon, pas vrai et pas beau. Malheureusement, nous sommes toujours prêts à faire des compromis. Essayons de nous imaginer un monde où Harvey Weinstein aurait le droit de dire « Mais moi, je trouve ça beau !» Ou Donald Trump pourrait dire « Mais moi, je trouve ça vrai !» Et où Monsanto dirait « Mais nous, nous trouvons ça bien !» Or, Dieu existe. Il n'est absolument pas... Or, Dieu existe. Il n'est absolument pas un être lointain. Il nous est au contraire si proche que tout ce qui se passe mal humainement parlant le regarde absolument. Ça le touche au fond du cœur. Et à tel point qu'il livre même son propre fils pour réparer le monde, pour reconstituer ce qui est bon, vrai et beau, et pour nous réconcilier avec lui et entre nous. Mais Dieu n'est pas seulement présent parmi les victimes du péché quand on les fait monter dans des wagons à bestiaux. Dieu a aussi une autre solution pour les pécheurs. Pour les petits pécheurs, ceux de catégorie moyenne, et pour les grands pécheurs, et même pour tous ceux qui portent de lourdes bottes en cuir et qui ont commis de telles atrocités que cela dépasse absolument leur capacité personnelle à les réparer. C'est Dieu lui-même qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui a fait la paix par le sang de sa croix. Nous devions payer, il paye. On ne nous demande qu'une chose, avouer nos péchés. En lui, nous avons le pardon de nos fautes. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien. Module 12. Pourquoi la messe est-elle le sommet de la vie de l'Église ? Il va être question de cette affirmation surprenante. Les catholiques croient qu'un morceau de pain est Jésus-Christ. On se demande bien pourquoi. Quand on réalise un micro-trottoir pour savoir ce qui est typiquement catholique, on entend souvent dire « Ils doivent aller à l'église tous les dimanches. Ils sont obligés. » C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé d'embrasser sa femme ? On peut ne pas le faire. Mais que vaudrait un amour qui ne montrerait pas sa tendresse ? C'est une question essentielle. Suis-je vraiment chrétien si je ne vais pas là où Jésus souhaite me rencontrer ? Une réponse plus branchée serait « Je suis chrétien là et où je veux ». Mais est-ce vraiment ainsi ? Est-ce vraiment moi qui décide des rendez-vous décisifs de ma vie ? Je n'ai pas non plus décidé d'exister, ni à quelle époque j'allais naître, ni qui seraient mes parents. Dieu n'obéit pas à nos ordres. Il n'apparaît pas non plus à la demande, si nous avons subitement envie de le voir. Qui souhaite rencontrer Jésus a intérêt à connaître les lieux, les signes et les temps qu'il nous a indiqués. Quel est le rapport entre Jésus et cette réunion dominicale assez impénétrable dans une église froide ? Ça s'explique, et il faut avouer que l'on pourrait peut-être être plus explicite sur ce qui s'y passe réellement. Par où commencer ? Peut-être par ceci. La Sainte Messe n'est pas une sorte de culte rendu à Dieu parmi d'autres, juste un peu plus solennel, ce qui nous permettrait de choisir entre plusieurs options. La Messe dépasse tout, elle est hors catégorie, elle est unique. Et ce n'est pas une question de goût, de savoir si je préfère aller à la messe ou méditer à la crypte. Voici en quelques mots sa valeur ajoutée, ou encore son USP, son argumentaire de vente. Pendant la messe, tu reçois le corps du Christ, et en communion, tu deviens toi-même corps du Christ. Le corps du Christ est juste un autre mot pour Église. Personne ne peut donc dire « Je veux appartenir à l'Église, mais je ne veux pas me laisser bouffer. » Ce serait absurde. Mais n'est-ce pas seulement une représentation du passé, comme une pièce qui rejoue la passion ? Et non. Au festival de l'Oberammergau, personne ne meurt pendant la passion, même si on y utilise beaucoup de jus de tomate. Pendant la messe, le sacrifice du Christ sur la croix s'actualise vraiment pour nous. Le prêtre n'interprète pas une pièce de théâtre genre la dernière scène. Ça a vraiment lieu. Nous y participons, pas quelque part en pensée, réellement. Le moment est venu de regarder ces histoires assez étonnantes de plus près. Faisons un zoom sur la salle de la dernière scène. C'est la nuit où Jésus va être livré, la veille de la Pâque juive. Jésus fait ce qu'un bon père de famille juif ferait ce soir-là. Il rassemble les siens autour de lui, en l'occurrence les 12, pour célébrer une sorte de liturgie sacrificielle, l'Eucharistie ou encore action de grâce. Mais ce faisant, Jésus dit des paroles déconcertantes. Les apôtres ont dû sentir leur sang se glacer dans leurs veines. Il prie et il offre en libation en disant ces paroles sur le pain. « Ceci est mon corps donné pour vous. » Pardon, il se fait lui-même la victime. Si un grand prêtre avait été là, ça aurait bardé. Mais ce n'est pas tout. Jésus prend le calice rempli de vin et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Essayons de bien comprendre ce que cela veut dire. L'alliance des 12 tribus avec Dieu était ce qu'il y avait de plus sacré pour Israël. Et là, Jésus arrive et fonde une nouvelle alliance avec un groupe de 12 pécheurs parfaitement inconnus. Et en plus, il fonde cette alliance sur la base de son propre sang. Et en plus, les apôtres doivent le manger et le boire pour pouvoir participer de cette alliance. C'est de la haute trahison. Mais que fait votre rabbi ? Faites cela en mémoire de moi. Mais c'est quoi ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. J'imagine que Judas se disait « Il a complètement perdu la boule ». Il faut préciser que les apôtres ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus voulait dire. Ce n'est qu'après la crucifixion sanglante sur le mont Golgotha, après le tombeau vide, après les rencontres avec le ressuscité qui a partagé le pain avec eux, qu'ils ont commencé à comprendre ce que Jésus voulait dire en parlant du don de son propre corps, du versement de son sang pour nous, de la nouvelle alliance et ainsi du début d'une nouvelle histoire initiée par Jésus lui-même entre Dieu et l'humanité. C'est émouvant de savoir que les premiers chrétiens ont commencé à se réunir les dimanches pour fêter la liturgie du repas et pour vivre de cette communion à son corps. Aujourd'hui encore, l'Église prend sa source dans l'Eucharistie. C'est impératif d'y aller, c'est un must.